Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je propose d'ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7. La parabole de la porte étroite fait partie du sermon sur la montagne selon qu'il est rapporté par Matthieu. Mais Luc nous donne aussi la même parabole, mais dans un contexte tout à fait différent. Alors il est remarquable que ce sermon sur la montagne, où le Seigneur Jésus développe le principe des royaumes des cieux, se termine par 4 avertissements. Chacun d'eux comprend 2 choses, qui ont certes chaque fois un dénominateur commun, mais qui sont aussi dissemblables qu'il est possible de l'être. 2 portes, 2 chemins, 2 arbres, 2 sortes de professants et 2 constructeurs. Alors ce matin, nous nous occuperons que du premier avertissement et nous commencerons par la parabole de la porte étroite et du chemin resserré. Je propose de lire à partir du verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui entrent par elle. Car étroite est la porte et resserré est le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui le trouvent. Dans ces versets, le Seigneur regarde manifestement plus loin que ses disciples et s'adresse à la foule. Ceux qui composaient cette foule se trouvaient confrontés au choix entre le chemin large et le chemin étroit, entre la destruction et la vie. Nous ne pouvons pas dire que la grâce de Dieu est étroite, car elle est apparue à tous les hommes. Ce qui est étroit, c'est le chemin du jugement, le jugement de soi et la repentance. Peu nombreux sont ceux qui le trouvent, et encore moins nombreux ceux qui le proclament. Une majorité de prédicateurs préférerait annoncer des vérités plus agréables, mais c'est la parole de Dieu. Vous connaissez peut-être ce tableau. L'image représente le chemin spacieux et le chemin resserré. Nombreux sont ceux qui se pressent vers une porte large derrière laquelle se trouve le chemin large, qui s'étire, plat, sans tournant, le long de toutes sortes de lieux de plaisir. Il débouche finalement sur les flammes ardentes de l'enfer. À l'inverse, sur la droite, la porte étroite qui passe par la croix mène sur le chemin resserré, escarpé et étroit. Il tortille en de nombreuses courbes montant vers le haut. On ne trouve qu'ici ou là un voyageur se fatiguant à grimper et à la fin du chemin on voit représenter le ciel, la Jérusalem céleste, le royaume de Dieu. Cette image est impressionnante. Oui, il en est ainsi. Il y a 2 chemins et aussi 2 destinations. Si seulement les gens savaient où ils vont. Et vous, savez-vous où vous allez? Comme dans la parabole du Seigneur Jésus, ce tableau nous montre ici que la porte étroite et la porte large sont au début de chacun des chemins. On ne peut accéder au chemin resserré qui conduit à la vie qu'en passant par la porte étroite. C'est là l'enseignement qui doit nous être donné. L'accent est mis sur la porte étroite, sur la nécessité d'y passer. Et le chemin resserré s'y rattache directement. En Jean 10, le Seigneur Jésus se désigne lui-même comme étant la porte et il dit « Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Ce n'est que par la foi en lui et ainsi par la nouvelle naissance qu'on peut entrer sur le chemin de la vie. Dans l'évangile de Jean chapitre 3, à partir du verset 16, Jésus discute avec Nicodème. Jésus lui répond et lui dit « En vérité, je te dis, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et alors, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et renaître? Jésus répondit, en vérité, je te dis, si quelqu'un est né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il vous faut être né de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le son, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alors Nicodème répondit et lui dit, « Comment ces choses peuvent-elles se faire ?» Jésus répondit et lui dit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. En vérité, je te dis, nous disons ce que nous connaissons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si je vous ai parlé des choses terrestres et que vous ne me croyez pas, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes ? Et personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors une question, pourquoi la porte est-elle étroite ? Tout simplement parce qu'elle est indissociable de la foi en notre Seigneur Jésus-Christ et de la repentance envers Dieu. L'homme doit être amené à reconnaître ce qu'est le péché aux yeux de Dieu. Il doit se reconnaître lui-même comme entièrement perdu et ruiné. Ce n'est pas une affaire à prendre à la légère. Quand Pierre présentait leur péché aux Juifs lors de la Pentecôte, ils eurent le cœur saisi de compunction. Cela leur transperça le cœur et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Que ferons-nous, Pierre ?» Et Pierre leur dit, « Repentez-vous, repentez-vous. » Qu'il est difficile pour des gens religieux, et spécialement pour les Juifs de l'époque, de comprendre qu'ils doivent renoncer à toute soi-disant justice personnelle et qu'ils ne peuvent que se rejeter sur la grâce de Dieu. Ils voudraient bien mériter le bon plaisir de Dieu de telle ou telle manière. Il y a souvent de nobles sentiments et des gens qui ne redoutent aucune peine pour faire du bien, pour valoriser les valeurs chrétiennes. Mais pour passer par la porte étroite, ils doivent renoncer à leur propre justice et laisser dehors tout ce qui glorifie la chair. Or, c'est justement ce qui heurte. Et en règle générale, c'est ce qui a de la résistance intérieure. En conséquence de quoi, une quantité innombrable d'entre eux se retrouve sur le chemin large qui conduit à la perdition. À l'opposé de cela, la porte large est là. Attrayante. Mais c'est une entrée qu'ils se sont forgée selon leur propre imagination. Ils pensent entrer dans le royaume de Dieu avec leur forme chrétienne et en évitant la nouvelle naissance et pouvoir ainsi jouir des bénédictions du christianisme. En vérité, ils sont sur le chemin large vers la perdition et ils y vont dans la compagnie de tous les pécheurs impies. N'est-ce pas une déclaration effrayante ? Il y a deux chemins. On est soit sur l'un des chemins, soit sur l'autre. Il n'y a pas d'intermédiaire. Pas plus qu'il n'y a de place intermédiaire après la fin de ce temps de parcours du chemin. Notons bien ce que le Seigneur présente. Il montre deux portes, deux chemins, deux groupes de voyageurs, deux buts. Dans cette vie, on se trouve soit sur le chemin étroit et resserré, soit sur le chemin large. Et on se dirige soit vers la vie éternelle, soit vers la perdition pour l'éternité. Et quand le Seigneur parle de perdition, il parle d'une ruine et d'une déchéance extrême et définitive, une perdition irrévocable. c'est l'état après la mort et la séparation éternelle de la vraie vie divine. Le chemin resserré, ou le chemin large, ici-bas, la vie ou la perdition dans l'éternité, voilà la réalité que chacun doit regarder en face. Le fait que beaucoup suivent le chemin large n'en prouve pas pour autant la justesse. La vérité n'est pas du côté de la masse. Déjà, Dieu donnait cet avertissement dans l'Ancien Testament. Il dit à son peuple, « Tu n'iras pas après la foule pour faire le mal. » Exode 23, verset 2. Et même quand on est rentré par la porte étroite, il faut une grande énergie, beaucoup de sérieuses décisions de cœur pour se détacher de la grande masse et poursuivre à tout prix le chemin personnel qui serait bien le chemin resserré. Daniel, en son temps, avait déjà eu cette décision dans son cœur de ne pas se souiller avec les mets délicats du roi. Et Barnabas exhortait les croyants d'Antioche à demeurer attachés au Seigneur de tout leur cœur. Acte 11, 23. Demeurer attachés au Seigneur, persévérer dans la foi. Être prêt à entrer dans le royaume de Dieu par beaucoup d'afflictions. Voilà une bonne description du chemin resserré. J'ai vu dans un commentaire que le mot utilisé en grec pour resserrer est apparenté à un autre mot qui signifie tribulation, détresse, oppression, affliction, tourment, angoisse. C'est pas un hasard. Si la conversion et la nouvelle naissance forment la porte d'entrée, la sainteté est bien la caractéristique du chemin resserré. Or, dans un monde ennemi de Dieu, cela implique l'affliction, la détresse et la persécution. C'est tout autre chose qu'un chemin sans joie. Mais la réalisation de la sainteté de Dieu et la conformité à sa volonté en font vraiment un chemin resserré. Si ceux qui trouvent ce chemin ne sont que peu nombreux, cela ne tient pas à la grâce de Dieu, mais simplement au refus de cette grâce par l'homme. On veut tout emporter avec soi, à travers la porte large et sur le chemin large. Tout ce qui plaît aux yeux, tout ce qu'aime mon âme, tout ce que ma chair aime à se délecter. Et je ne vois guère de meilleure description du chemin large et du chemin resserré que cette parole de la première épître de Pierre, en 1 Pierre 4, 2, pour ne plus vivre le reste du temps dans la chair pour les convoitises des hommes, le chemin large, mais pour la volonté de Dieu, le chemin resserré. Alors pensons un peu plus à ceci. Les délices du péché ne sont que pour un temps, alors que toute sa fin est éternelle, avec l'enfer et la condamnation éternelle. Ceux qui parcourent le chemin resserré ont aussi trouvé ce chemin ou cette porte. Peu nombreux, ceci dit, sont ceux qui le trouvent. Et ce n'est certes pas à attribuer à leur propre mérite, mais à la seule grâce de Dieu dont nous venons de parler. La porte large et le chemin spacieux n'ont pas besoin d'être trouvés, car ils sont ouverts à tous et visibles de loin. Mais la porte étroite et le chemin resserré sont trouvés par la bonté de Dieu. C'est comme si, à l'occasion de cette trouvaille, on entendait la joie de la surprise, comme dans les trois paraboles de Luc, lorsque la drachme perdue, la brebis égarée ou le fils prodigue sont retrouvés. Il y a de la joie. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 13, le Seigneur nous fait une autre description de cette parabole. L'occasion de la parabole de la porte étroite est une question posée par quelqu'un qui voulait savoir si ceux qui seront sauvés seraient peu nombreux. Et tout le paragraphe place la parabole dans un contexte juif. Vraisemblablement, celui qui posait la question voulait savoir si le résidu juif serait épargné du jugement. Est-ce qu'il y aurait peu ou beaucoup de gens? Mais le Seigneur Jésus ne répond pas directement à la question. Sa réponse vise bien plutôt « qui » au lieu de « combien ». Je propose de lire cette parabole dans Luc 13, à partir du verset 24. Et Jésus leur dit « Luttez pour entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer, mais ne pourront pas. » Accepter le Seigneur Jésus en ce temps-là, quand il était sur terre, cela signifiait « entrer par la porte étroite ». C'est pour cela que les Juifs devaient lutter. Cela ne pouvait avoir lieu que par la repentance et par la foi, comme nous l'avons déjà vu. Effectivement, le Seigneur répond par une double parabole. Et à la parabole de la porte étroite, il ajoute celle de la porte fermée. Je relis à partir du verset 25. « Dès que le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous vous serez mis à vous tenir dehors et à heurter à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous » et que répondant, il vous dira « Je ne vous connais pas, ni ne sais d'où vous êtes. » Et alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné dans nos rues. » Et il dira « Je vous dis, je ne vous connais pas, ni ne sais d'où vous êtes. » « Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. Là seront les pleurs et les grincements de dents, quand vous verrez Abraham et Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, mais vous, jetez dehors. Et il en viendra d'Orient et d'Occident et du Nord et du Midi, et ils s'assieront dans le royaume de Dieu. Et voici, il y a des derniers qui seront les premiers, et il y a des premiers qui seront les derniers. » Quand le Seigneur Jésus dit au verset 24 que beaucoup chercheraient à entrer et ne pourraient pas, il ne prend pas cela comme point de départ. Il ne dit pas non plus qu'il s'agit de gens qui cherchent à entrer par la porte étroite. En fait, celui qui a vraiment le désir sérieux d'entrer par la porte étroite, il y réussira par la grâce de Dieu. Ce que dit simplement le Seigneur, c'est qu'ils chercheraient à entrer dans le royaume de Dieu, mais ne le pourraient pas. Le problème ou la difficulté à craindre n'était pas l'étroitesse excessive de la porte, mais c'est qu'à un certain moment, elle sera fermée. C'est pourquoi on ne peut comprendre correctement cette déclaration du Seigneur dans la première partie du verset 24 qu'en joignant la parabole de la porte fermée à cette explication. Il en ressort aussi clairement que, dans sa réponse, le Seigneur ne s'adressait pas seulement à celui qui lui avait posé la question, mais il avertissait également tous ceux qui l'entendaient et qui le rejetaient, qui rejetaient son message. Le comportement de la masse du peuple juif à l'égard du Seigneur était de l'indifférence, voire même de l'inimitié. Et s'il gardait cette attitude, il rêverait qu'un jour il serait dehors. Tel est l'avertissement du Seigneur. Des profonds exercices de cœur, une lutte sérieuse, c'était nécessaire en ce moment-là pour arriver à entrer dans le royaume de Dieu. Et s'il cherchait à entrer maintenant, sans ces exercices de cœur, sans ces exercices de repentance et de foi, alors plus tard, il devrait rester dehors face à une porte fermée. Il est vrai qu'alors, il y en aurait qui lutteraient, appelant et heurtant sérieusement, « Seigneur, ouvre-nous !» Mais la porte est fermée. Autrement dit, s'il rejetait le Seigneur Jésus dans son abaissement, il serait rejeté par lui au jour de sa gloire. Ainsi, c'est la pensée de la lutte qui relie ces deux paraboles et qui rend la réponse du Seigneur si expressive, mais aussi si sérieuse. Lutter, c'est se donner du mal pour obtenir quelque chose. C'est s'efforcer avec beaucoup d'ardeur. C'est un mot qui est souvent utilisé à l'occasion de combats d'athlètes. Cela nous montre clairement qu'il n'est pas fait allusion à l'obtention de la béatitude éternelle, mais au fait de la rechercher sérieusement. Le point commun entre ces deux paraboles, c'est simplement lutter maintenant de la bonne manière pour ne pas avoir à lutter un jour en vain. Tel est l'enseignement du Seigneur dans l'évangile de Luc. Un enseignement et un avertissement qui nous concernent tous aujourd'hui. Nombreux sont ceux qui professent extérieurement être chrétiens, mais qui ne sont pas prêts à s'engager dans le simple chemin du salut tel que nous l'avons vu. Un jour, ils se mettront aussi à se tenir devant la porte, à heurter et à dire « Seigneur, ouvre-nous ». Mais le temps de la grâce sera passé et la porte restera fermée. De l'intérieur, ils entendront la voix du Seigneur qu'ils auront dédaignée. Je vous dis, je ne vous connais pas, je ne sais pas d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. Dans les paraboles du Seigneur, on rencontre plusieurs fois une porte fermée. Quand le Seigneur se trouve derrière cette porte fermée et qu'il est représenté comme étant à l'intérieur, cela nous rend sensibles à la pensée effrayante d'être exclus pour toujours des bénédictions du royaume de Dieu et des cieux. Ce point de vue se retrouve dans la parabole des 10 vierges, que vous pourrez relire, Matthieu 25, versets 11 à 13. Le Seigneur est à l'intérieur et dehors sont l'hypocrite et le professant sans vie. Dans la parabole du maître qui revient des noces, en Luc 12, le maître est au contraire dehors. Et c'est lui qui heurte à la porte. Il attend de ses esclaves une attente dictée par l'amour. Nous devons nous attendre à lui et à son retour. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et nombreux sont ceux qui entrent par elle, car étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Et peu nombreux sont ceux qui le trouvent. Alors, il y a une alternative. L'image est facile à comprendre. Pour chacun, il n'existe que deux portes, deux chemins, deux buts. Il n'y a que deux catégories d'hommes. La signification des deux portes et des deux chemins n'est pas directement donnée. Mais leurs issues respectives, la perdition ou la vie, ne sauraient être plus clairement précisées. Une direction doit être prise au départ. Le Seigneur nous invite à entrer par la porte étroite et à nous engager dans le chemin étroit de l'obéissance qui conduit à la vie. Que faisons-nous de son invitation? Qu'en faisons-nous? Il est plus facile, mais infiniment plus dangereux, de suivre la grande foule par la porte large et le chemin spacieux de la désobéissance qui mène à la destruction. Et le mot employé pour la perdition, nous l'avons vu, ça signifie la condamnation éternelle. L'appel du Seigneur est clair. Entrez par la porte étroite. Et après avoir averti du danger qu'il y a à suivre le chemin large, il explique « Car étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Peu nombreux sont ceux qui le trouvent. » Chacun est donc appelé à entrer par cette porte étroite. Le chemin du disciple est sans doute un chemin resserré, car c'est un chemin d'abnégation, un chemin de dévouement, mais aussi un chemin d'adversité, voire de persécution. Mais c'est le chemin qui mène à la vie. Le Seigneur avait déjà dit au chapitre 5, « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » De même, Paul et Barnabas avertiront plus tard les croyants de l'Asie mineure que c'est par beaucoup d'afflictions qu'il vous faut entrer dans le royaume de Dieu. Acte 14, 22. Et en Luc 13, au verset 24, le Seigneur dit simplement « Luttez pour entrer par cette porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer, mais ne pourront pas. » La mise en garde contre le chemin spacieux n'apparaît pas. Dans notre passage, l'appel du Seigneur est particulièrement solennel. Ne perdons pas de vue que Dans le sermon sur la montagne, il ne s'agit pas encore de recevoir l'évangile de la grâce, mais de suivre le Seigneur Jésus en fidèle disciple. Ici, le Seigneur Jésus ne présente pas la grâce de Dieu, ni le moyen du salut, mais la responsabilité de l'homme et le chemin à la suite du Christ. La grâce de Dieu et la responsabilité de l'homme sont comme les deux rails de cette voie, et en dehors d'elle, il ne reste que le chemin qui mène à la perdition. La responsabilité du disciple ne saurait être soulignée de manière plus solennelle. Cette déclaration, porte étroite, chemin resserré qui mène à la vie, c'est dur. C'est dur pour la chair. Mais cette déclaration attire l'attention sur une question essentielle, vitale, celle d'un chemin dont l'issue a des conséquences éternelles. Il ne faut pas chercher à mettre ces paroles de Jésus en contradiction avec celles qu'il prononcera en Matthieu 11:30, comme on l'a répété ce matin, « Car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. » Selon Romains 5, versets 6 à 10, « L'homme naturel qui n'est pas régénéré, qui est sans force, impie, pécheur, ennemi de Dieu. » Pour un tel homme, la décision de suivre le Christ a des conséquences difficiles à supporter. C'est pourquoi il a besoin d'être attiré par l'amour, par la grâce, par la miséricorde de Dieu. Par contre, pour celui qui naît de nouveau, il est facile de suivre le Seigneur car il a reçu de Dieu une nouvelle nature dont le seul désir est de faire la volonté divine. Même si la chair, l'ancienne nature de l'homme, est encore présente et résiste toujours. Pour l'homme non régénéré, sans relation avec Dieu, suivre le chemin large est une chose qui va de soi. Là, il n'y a aucune limitation, on fait ce qu'on veut. Mais ce chemin aboutit à la perdition éternelle. Et ce que le Seigneur décrivait jadis se voit encore aujourd'hui. Beaucoup se laissent éblouir, séduire par une entrée large et attrayante de ce chemin. Ils ferment les yeux sur son aboutissement. Normalement, on ne monte pas dans un train ou dans un avion sans avoir quelle est la destination. Mais lorsqu'il s'agit du plus important des voyages, le chemin de la vie sur cette terre, beaucoup ne se soucient ni de son terme, ni de son but. Ou alors, ils se bercent dans une fausse sécurité. Encore une fois, n'oublions pas qu'il n'est pas question ici du salut gratuit, mais de la responsabilité du disciple de Christ. Lui aussi est en danger, le danger de se laisser séduire par les attraits trompeurs du chemin spacieux. Que celui qui confesse appartenir au Seigneur ne se trompe pas lui-même en pensant que sa marche n'a pas beaucoup d'importance. L'essentiel étant d'avoir la foi. Dans toute l'Écriture, il n'existe aucun passage qui soutienne l'idée qu'une vie de péché, c'est-à-dire une vie de marche dans le chemin large, aboutisse à la gloire. Au contraire, la parole de Dieu déclare clairement qu'une marche dans le mal conduit à la perdition éternelle. N'en tirons pas non plus la conclusion que de vrais chrétiens qui sont nés de nouveau puissent perdre leur salut. Lorsque le Seigneur parle de personnes sauvées par la grâce, il dit en Jean 10, verset 29, « Personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Et lorsqu'il s'agit de notre profession chrétienne, la Bible montre que ce que nous disons être doit être confirmé par notre marche à la suite du Seigneur. Ce sont les deux côtés de notre relation avec Dieu. Ils constituent ensemble le sceau divin rappelé dans 1 Timothée 2,19. Le Seigneur connaît ceux qui sont les siens et qu'il se retire de l'iniquité. Quiconque prononce le nom du Seigneur. La déclaration du Seigneur Jésus dans ces versets est très sérieuse. Elle concerne tous ceux qui confessent Jésus-Christ comme leur Seigneur. Alors, nous avons la responsabilité de venir à Christ. Ceux qui doivent être sauvés sont-ils en petit nombre ? Demandait cet homme qui voyait Jésus passer sur la route avec ses disciples. Mais Jésus lui répond, « Luttez pour entrer par la porte étroite. Que t'importe le nombre de ceux qui seront sauvés ? L'important, c'est que toi, tu fasses partie de ceux qui seront sauvés. » On pouvait se demander alors, qui ferait partie du résidu épargné dans le jugement de la nation ? Comme aujourd'hui, on se préoccupe beaucoup trop de la prédestination, du sort des païens et de bien d'autres problèmes. Mais ce qui compte avant tout, c'est devenir soi-même à Christ. La porte étroite nous parle d'une décision. Il y a des jours, des heures, où l'Esprit de Dieu travaille dans la conscience et dans le cœur. Alors laissera-t-on passer ces moments sans se décider pour Christ ? Il y a une lutte, et la chair n'est pas à l'aise. Il y a aussi la souffrance. La souffrance devant tout ce qu'ils font abandonner. Mais qui vaincra ? Dans Matthieu 7, un choix est présenté entre la porte étroite et la porte large, entre le chemin resserré et le chemin spacieux. Choix et décision vitaux, car le chemin large mène à la porte fermée, à la perdition. À cause du péché et de la volonté de l'homme, ennemi de Dieu, il y a dans ce monde une opposition constante à ce qui est bien, de sorte qu'il faut continuellement une énergie pour entrer dans le chemin de Dieu et accomplir le bien. C'est ce que représente l'effort à faire pour entrer par une porte étroite. Tandis que la porte large qui ouvre sur ce chemin spacieux se franchit sans difficulté. Il n'y a qu'à se laisser aller au courant entraînant du monde et au penchant naturel de son propre cœur qui aime tout ce qui est facile, tout ce qui donne du plaisir. Mais l'homme n'est pas ici-bas pour toujours. Nous ne sommes pas ici là pour toujours. À cause du péché, la naissance place tout homme sur le chemin de la perdition. Grâce à Dieu, son amour a ouvert un autre chemin, celui qui mène à la vie. Mais peu y entrent, parce qu'il n'offre pas au cœur naturel l'aliment qu'il désire. En un mot, le péché qui le conduit à la mort et au jugement. Souvenez-vous que tout ce qui attire la chair, tout ce que le monde approuve, ce qui ne demande aucun effort, caractérise le chemin large. Jamais l'entraînement dans ce chemin n'a été si puissant, et surtout aussi subtil que maintenant. On y est entraîné par le luxe, par les études, les lectures, le choix des amis, les exercices corporels de tout genre, et tant d'autres choses qui agissent d'autant plus subtilement que plusieurs même sont utiles, voire même nécessaires. Pour en user d'une manière saine et ne pas se laisser entraîner par elle dans le chemin large qui conduit à la perdition, il faut une vigilance qui ne s'obtient qu'en écoutant la parole de Dieu. Tout ce qui sert à nous introduire et à nous maintenir dans le chemin étroit qui mène à la vie, c'est désagréable au cœur. Encore faut-il qu'il soit encore naturel. C'est agréable pour un cœur régénéré. Mais pour le cœur naturel, c'est désagréable. Parce que ça se heurte à notre propre volonté. Écouter, lire la parole de Dieu, lire des ouvrages chrétiens, agir d'après les enseignements divins, obéir à ses parents en toutes choses, renoncer à tant d'attractions offertes à la jeunesse. Tout cela coûte des efforts à faire pour entrer par la porte étroite et demeurer dans le chemin resserré qui mène à la vie. Et comme Moïse est cité en Hébreux 11, versets 25 et 26, « Choisis plutôt d'être dans l'affection avec le peuple de Dieu que de jouir pour un temps des délices du péché, en estimant l'opprobre du Christ un plus grand trésor que les richesses de l'Égypte, parce que Moïse regardait à la rémunération. » Voilà, ces quelques versets nous rappellent que s'il y a 2 mètres, il existe aussi 2 chemins, 2 portes. Le chemin large est celui du grand nombre. Et cela, en dépit d'un poteau indicateur de nature à faire trembler. Par ici, la perdition. En revanche, peu nombreux sont ceux qui trouvent, parce que peu nombreux sont ceux qui cherchent le chemin qui mène à la vie. Étroite est la porte. On n'y pénètre qu'après avoir abandonné ses bagages, les bagages du moi, de la propre justice. Notre vie s'encombre de tellement de fardeaux. Jamais nous ne voyons le Seigneur satisfaire la curiosité. Lorsqu'on lui demande si les élus sont en petit nombre, il en profite pour parler à la conscience, comme pour dire à chacun « Ne t'inquiète pas des autres, fais en sorte, toi, de faire partie de ce monde. » Certes, la porte est étroite, mais le royaume de Dieu est assez vaste pour accueillir tous ceux qui désirent y entrer maintenant. Et si tu ne veux pas de cette porte étroite, tu n'auras devant toi plus tard qu'une porte fermée. Quoi de plus solennel que les coups frappés, ces vains appels et cette réponse terrible « Je ne vous connais pas ». Et alors certains pourront dire « Mais il y a erreur là, j'ai pourtant eu des parents chrétiens, je suis allé régulièrement aux réunions, j'ai lu ma Bible, j'ai chanté des cantiques, je suis même allé un jour au culte, le dimanche 25 mai 2014, à Blanc-Ménil. » Mais le Seigneur ne recevra dans son ciel que ceux qui l'auront ici-bas reçu dans leur cœur. Deutéronome 30, verset 19. J'appelle aujourd'hui à témoin contre vous les cieux et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. L'image est plus directe, hein. Là il n'y a plus la porte, on a déjà franchi. On voit les deux chemins. Alors, lequel tu choisis? Je te conseillerais de prendre celui de droite quand même. Un dernier verset, en 2 Corinthiens 6, verset 2. Autant agréé, je t'ai exaucé. En un jour de salut, je t'ai secouru. Voici, c'est maintenant le temps agréable. Voici, c'est maintenant le jour du salut. Amen. Je propose une dernière image et on va chanter un chant. Né de la poussière et d'éternité, j'ai vu la lumière, elle m'a racheté. Il est la vérité, le chemin et la vie. On devient au Père que par lui.